Radio Kapi. Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Kisangani dans la Tchopo. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Au Nord Kivu, plusieurs décès sont enregistrés dans le camp des déplacés et sinistrés des Kadian Routinia, non loin de Goma, en territoire de Niragongo. Le président de ce camp plaide pour le retour de la paix afin de permettre à ces déplacés de retourner dans leur milieu d'origine. Le Monde célèbre ce mardi la journée internationale de la jeune fille sous le thème « Solidarité intergénérationnelle ». À cette occasion, le ministre du Genre, Famille et Enfants invite les jeunes filles et la société civile à dénoncer tous les actes discriminatoires dont cette catégorie de la population est victime. L'invité de ce journal est le chef du projet de renforcement des organisations de la société civile agricole de la filière cacao, huile de palme et du riz dans la Tchopo. Emmanuel Bouirabouiza Mouchagaloussa parle de ce projet qui a été lancé hier lundi à Kisangani sous le financement de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, plusieurs décès sont enregistrés dans le camp des déplacés et sinistrés de Kanya Routinia, non loin de la ville de Goma, en territoire de Niragongo. Le président de ce camp lance un cri d'alarme et plaide non seulement pour une bonne prise en charge de ces personnes vulnérables, mais aussi et surtout pour le retour de la paix afin de permettre à ces déplacés et sinistrés de retourner dans leur milieu d'origine. Des détails avec Bernardine Diambou.
Pour le président du camp de Kanya Routinia, en espace de 48 heures seulement, deux garçons sont décédés dans ces sites. C'est à suite d'une courte maladie, affirme-t-il. Le dernier, un garçon âgé de 12 ans, est décédé dans la nuit du lundi à ce mardi, tandis que l'autre garçon âgé de 8 ans est décédé samedi dernier. Théo Moussekoura fait un bilan de 13 cas de décès enregistrés durant ces 5 mois dans ces camps, qui abrite les sinistrés de l'éruption des volcans Niragongo du 22 mai 2021. Parmi eux figurent des cas de décès suite à la faim. Toujours selon notre source, les autres seraient morts suite aux maladies hydriques et au paludisme liées à de mauvaises conditions de vie. D'ailleurs, toujours selon lui, ces personnes vulnérables, hommes, femmes, personnes de troisième âge et enfants, passent la nuit dans des écoles à même les sols. Elles sont dépourvues de tout. Ils n'ont pas d'abri et manquent de l'eau potable, hormis la nourriture. Ces cas de décès, devenus récurrents, devraient interpeller les décideurs afin de voir comment venir en aide à ces personnes vulnérables, a indiqué Théo Moussekoura. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
La province du Sud Kivu enregistre des contre-performances budgétaires depuis 3 ans. Théo Ngwabidje Kassi dénonce des détournements des fonds publics par certains responsables des services. C'est ce qu'il a déclaré à Bukavu hier lundi lors de l'ouverture des conférences budgétaires du Sud Kivu. Il promet des sanctions sévères aux responsables des services mobilisateurs des recettes qui détournent les fonds. On l'écoute dans cet extrait choisi par Emmanuel et la Mejua Kabedi.
Depuis que je suis gouverneur des provinces, je travaille en déficit chronique. Il nous faut à peu près 1,5 million de dollars pour fonctionner, voire 2 millions de dollars. Mais la province n'encaisse que 1 million de dollars. Ça montre que les recettes de cette province passent par les poches des individus. Au lieu de prendre la direction du trésor provincial, ça passe par les poches des individus et des responsables. Et dès aujourd'hui, nous prendrons les décisions nécessaires, à savoir sanctionner tout responsable qui ne réalise pas les assignations budgétaires. Les moyens sont détournés. Combien de responsables qui gagnent 500 dollars mais qui achètent de maisons ici, de véhicules de luxe et qui s'enrichissent au détriment de la population? Les recettes de l'intérieur sont détournées, n'arrivent pas à Bukavu. La province, comme je le disais, est en déficit chronique depuis des années. Conséquence entraînant un endettement excessif qui pèse très lourd sur son développement. Le paiement des projets que nous réalisons, c'est uniquement par l'emprunt bancaire. Et même des salaires pour les boucler, nous devons recourir au découvert bancaire. C'est pourquoi j'interpelle tous les services publics de se mettre résolument au travail de mobilisation des recettes.
Dans la province de la Tchopo, la route Kisangani-Ubundu se trouve dans un état de délabrement très avancé. Longue de 126 km, cette route est pourtant d'une grande importance économique car elle permet le trafic entre Kisangani et la province du Maniema en passant par la cité d'Ubundu. Des explications avec Jacques Moukonkolé.
Parcourir les 126 km qui relient la ville de Kisangani à la cité d'Obundu, c'est s'engager sur le chemin de la croix, déclarent certains usagers de cet axe routier. Des bourbiers jonchent la chaussée, rendant ainsi difficile la circulation des engins. En effet, actuellement, au départ de Kisangani, il faut plus de 24 heures pour une moto afin d'atteindre Obundu ou vice-versa. Alors qu'en temps normal, 2 heures suffisent. Les véhicules qui mettaient 4 heures de route autrefois passent 3 jours en cours de route. Gilbert Bokungu, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, regrette que les travaux entrepris autrefois se soient arrêtés brutalement, engendrant ainsi les conséquences socio-économiques indéniables.
Nous avons vu les Chinois mal officier route qui s'est plongé dans la même route. Les travaux se sont arrêtés à mi-chemin. Actuellement, il y a les commerçants de Kindu qui ne savent plus, n'est-ce pas, évacuer leurs marchandises. Un état de délabre très avancé. Et aujourd'hui, la route, les véhicules ne se plient à atteindre Obundu. L'économie a sensiblement baissé, d'autant plus qu'il n'y a pas de circulation monétaire.
L'élu du territoire d'Obundu exhorte le FONER à dégager des moyens financiers nécessaires pour la remise de cette route en état de praticabilité. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le Monde célèbre ce mardi la journée internationale de la jeune fille sous le thème « Solidarité intergénérationnelle ». À cette occasion, le ministre du Genre, Famille et Enfants invite les jeunes filles et la société civile à dénoncer tous les actes discriminatoires dont cette catégorie de la population est victime et aux autorités politico-administratives et judiciaires de sanctionner les auteurs de ces abus. Des détails avec Jean Gandou.
Parmi les maux qui rongent la vie de la jeune fille, surtout dans les milieux ruraux, il y a notamment le mariage précoce, la non-scolarisation, les travaux forcés, les viols et autres. Très souvent, la jeune fille subit ces affres avec la complicité des parents. Exemple de Nathalie, habitant dans les territoires de Bukama, province du Olomami. Elle dit avoir été mariée à l'âge de 16 ans. Elle avait été encouragée par sa maman. Quelques mois après, le mari l'a abandonnée enceinte et elle est rentrée en famille. Son enfant a 2 ans. Il n'a jamais vu son père. Fort de cette expérience malheureuse, Nathalie demande aux jeunes filles mineures de s'opposer au mariage précoce et surtout de ne pas accepter le mariage forcé. L'histoire de Nathalie n'est pas isolée. Elle est vécue aussi par plusieurs autres filles, notamment dans les milieux ruraux où le mariage est une voie obligée, quel que soit l'âge de l'homme. Et pour mettre fin au calvaire que vivent les jeunes filles, la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfants dans le Haut-Katanga a dans son message interpellé tout le monde. Léopoldine Salila Kondé.
Aux membres de la communauté, dénoncer les abus de toutes sortes dont les jeunes filles sont victimes. Aux parents, de tenir des dialogues francs avec leurs filles afin de les guider pour éviter des situations fâcheuses. Aux jeunes filles, d'éviter des habitudes peu recommandables, de se consacrer aux études pour leur épanouissement et un avenir radieux.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis la ville de Kasumbalesa s'est réveillée ce mardi dans le calme après une matinée agitée de lundi. La population de plusieurs quartiers s'est soulevée pour protester contre le meurtre d'un jeune par des hommes armés non autrement identifiés. Une situation que déplore la société civile locale qui demande aux autorités provinciales de renforcer la sécurité car ces derniers temps, il s'observe un regain de la criminalité après un temps d'accalmie. Retrouvons encore une fois Jean Gandou en ligne de Lubumbashi.
La société civile de Kasumbalesa renseigne que le meurtre est intervenu ce lundi aux petites heures du matin. Des hommes en armes ont investi plusieurs maisons dans la cellule sous-station 3, ravissant les biens et de l'argent. Toujours d'après la même source, c'est pendant cette opération qu'un homme d'une vingtaine d'années est sorti de sa maison pour aller vers les installations sanitaires quand il a été fauché par 2 balles dans les jambes. Il a rendu l'âme quelques instants après. Une situation qui a révolté les habitants de ce quartier qui tôt le matin se sont opposés que les forces de l'ordre arrivaient sur les lieux ne récupèrent le corps inerte. Il s'en est suivi un échange de projectiles avec les manifestants en colère. Les militaires se sont imposés et ont pris le corps en tirant dans la foule. Un jeune garçon de 10 ans a reçu une balle dans le dos qui l'a transpercé. Il est admis dans une polyclinique de la place où il a été opéré avec succès. D'après le maire de Kasumbalesa, citant les sources médicales, ses jours ne sont pas en danger. La société civile locale, qui déplore ce énième cas de meurtre, lance un SOS aux autorités pour le renforcement de la sécurité car à chaque tombée de la nuit, tout le monde a peur, redoutant d'être visité par ces hors la loi à la gâchette facile. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et sous un autre chapitre, la province de l'Ituri vient d'être dotée d'un plan opérationnel des activités du programme de désarmement, de mobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Ce plan a été validé hier lundi par le gouvernement provincial et ses partenaires dont la MONUSCO ainsi que les forces vives de la province. Le bureau provincial de la société civile de l'Ituri invite les autorités à accélérer ce programme pour la pacification de la province. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Ce plan a été adopté au terme de 4 jours de travaux qui ont regroupé les experts venus de la coordination centrale du PDDRCS à Kinshasa et leurs collègues de la province. Ce plan met également un accent particulier sur les différents piliers, dont la protection de l'enfant, le respect des droits de l'homme, pour une prise en charge correcte des groupes armés favorables au processus de paix. Pour la coordination provinciale de la société civile, les autorités doivent accélérer ce processus pour permettre aux populations fatiguées par les conflits armés de retourner dans leur milieu d'origine. Son premier vice-président, Jean-Marie Zadri.
Nous avons validé un plan. Avoir le financement de ce plan sera encore une autre étape dont nous ne savons pas si ça sera pour quand. Nous devons vouloir appeler toutes les autorités de se mobiliser pour l'effectivité. La population a déjà marre des abus graves que commettent ces miliciens.
Pour le vice-gouverneur des provinces, ce plan constitue une avancée significative dans le processus de paix en Ituri. Le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni.
Les groupes armés pensent que le PDDRCS va pouvoir donner de l'argent à chaque combattant, alors que c'est un programme de retourner dans les activités d'antan pour pouvoir se lancer dans la vie.
La MONUSCO, pour sa part, promet un appui logistique et financier pour la réussite de ce programme. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Et panique ces derniers jours des habitants des hauts plateaux de Batumba en territoire de Kalemie. Ils accusent un chef milicien connu sous le nom de colonel Kavungaliwa de semer la terreur dans cette partie de la province du Tanganyika. Ce dernier a fait irruption dans cette contrée et rançonne les habitants. Information confirmée par l'administrateur du territoire de Kalemie. Des détails avec Pone Munanga.
Parmi les villages qui sont inquiétés par le milicien Liwa et sa bande qui est armée, il y a Kakozi, Kipara et Batumba sur l'axe Kalemi-Kabimba. Selon plusieurs sources, Kavunga Liwa a tenu des meetings il y a une semaine dans un village et a exigé aux éleveurs de vaches de lui donner chacun une vache. Et pour ceux qui élèvent des chèvres ou moutons, de lui donner chacun soit une chèvre ou un mouton. Et il a astreint à chaque ménage de lui verser une somme de 15 000 francs congolais. Ensuite, il aurait demandé à la population de lui préparer une femme qu'il va épouser. Liwa est reparti promettant de revenir dans ses villages. Pris de peur, certains habitants ont jugé mieux de vider les villages et lancent un cri de détresse aux autorités de la province du Tanganyika. Pour l'administrateur du territoire de Kalemie, il y a 6 mois, le gouvernement provincial du Tanganyika avait demandé aux forces de l'ordre d'aller capturer ces miliciens. Ils s'étaient échappés et avaient disparu pendant quelques mois avant de réapparaître. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Jean-Marc Kaboun sollicite la main levée de sa détention pour recouvrer sa liberté totale et participer à la session parlementaire de septembre en cours. Ses avocats conseils ont saisi hier lundi le président du bureau de l'Assemblée nationale auprès de qui ils demandent d'ordonner la fin des poursuites de leurs clients conformément aux dispositions constitutionnelles, réglementaires de cet organe et à la loi de procédure devant la Cour de cassation. Selon ses avocats, la détention de leurs clients est devenue irrégulière et viole la loi. Cependant, d'après maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, en cette matière, les bureaux de l'Assemblée nationale n'a que le pouvoir de faire suspendre et non de faire lever la détention. Les explications de Jeff Ngoy.
C'est depuis le 9 août que l'ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale est en détention à la prison centrale de Makala. Selon les dispositions constitutionnelles et réglementaires de l'Assemblée et la loi de procédure devant la Cour de cassation, la détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. Mais quelles sont les limites du bureau de l'Assemblée? Maître Willy Wenga.
Le pouvoir du bureau, tout comme le pouvoir de la plénière en matière d'interférence des législatifs dans le judiciaire, s'agissant des députés nationaux, c'est le pouvoir de faire suspendre et non le pouvoir de faire lever la détention. Je pense que ce sont des nuances.
Toutes les dispositions légales, y compris l'ordonnance du 12 août de la Cour de cassation statuant en chambre du Conseil sur la requête de mise en détention préventive, autorisent, d'après les avocats, l'assignation à résidence surveillée de leurs clients. Une nouvelle audience publique est prévue le 17 octobre prochain. À la dernière audience, Kabound s'était absenté pour raison de santé.
Actualité internationale.
La Tunisie connaît une pénurie de produits de base. Le prix de sucre, l'huile végétale, riz et autres produits agricoles a galopé. Les rayons de supermarché sont vides. Les rares produits disponibles sont vendus sous forme des rations uniquement. Et puis la Turquie a appelé ce mardi la Russie et l'Ukraine à un cessez-le-feu viable dès que possible, estimant que les deux pays s'écarter du chemin de la diplomatie alors que la guerre perdure. Un cessez-le-feu doit être établi dès que possible, le plus tôt et le mieux, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères lors d'un entretien télévisé.
L'invité
de ce journal est le chef du projet de renforcement des organisations de la société civile agricole des petits agriculteurs de la filière cacao, huile de palme et du riz dans la Tchopo. Emmanuel Bouirabouiza Mouchagaloussa parle de ce projet qui a été lancé hier lundi à Kisangani sous le financement de l'Union européenne. C'est dans un entretien avec Jacques Moukonkolé.
Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le représentant de Rikoto dans la province de la Tchopo. Que signifie Rikoto?
Rikoto signifie récolte. Ça vient du mot espéranto qui signifie récolte. C'est une organisation qui permet d'accompagner des petits producteurs agricoles à travers le monde. Et c'est là depuis 40 ans que nous accompagnons les petits producteurs agricoles en les connectant au marché, en améliorant leur système de transformation de leur production, en améliorant leur système de commercialisation et en mettant ensemble un système de collaboration multi-acteurs.
Ce sont donc là les objectifs poursuivis par votre organisation?
Oui, les objectifs poursuivis par Ricolto à travers le monde, c'est être dans un monde où la population aura à manger à sa faim, à travers une production issue des agriculteurs familiaux. Les agriculteurs familiaux pourraient augmenter leurs revenus à partir de leurs activités en tant qu'entrepreneurs, mais aussi ils pourraient contribuer au développement socio-économique de leur communauté de base.
Qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer dans la province de la Tchopo?
Alors, on va dire la province de la Tchopo, c'est une province à vocation agricole. Et depuis l'existence de Ricolto, nous travaillons en RDC il y a 30 ans déjà. Aujourd'hui, nous venons à Tchopo pour pouvoir accompagner ces petits producteurs agricoles qui sont dans les filières des cacao, des riz et des huiles de palme, afin que nous puissions voir les modèles que nous avons développés dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri et du Tanganyika, et que les petits producteurs agricoles puissent quand même accéder aux facteurs de production, qu'ils puissent accéder facilement au marché, qu'ils puissent accéder facilement au financement et qu'ils puissent aussi organiser leurs activités autour de l'agriculture.
En quoi consiste concrètement cet appui?
Cet appui consiste exactement à la professionnalisation des petits producteurs agricoles réunis en organisation de base, en essayant de créer des modèles d'affaires inclusifs qui tiennent compte de la présence de jeunes et de femmes. Cet appui consistera aussi à implémenter des activités qui consistent à développer une agriculture pérenne, une agriculture biologique, afin que nous puissions avoir des produits qui sont favorables à la consommation.
Et quel résultat attendez-vous en fin de compte?
Dans ce programme, nous attendons que nous puissions avoir une population de la Tchopo résiliente face aux méthodes classiques, méthodes ancestrales d'agriculture, l'adoption et la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, l'amélioration des infrastructures de transformation, l'accès aux intrants agricoles de qualité. Nous attendons de ces programmes l'accès aux marchés rémunérateurs. Nous attendons aussi de ces programmes le développement socio-économique de la province de la Tchopo.
Pourquoi vous avez opté pour l'appui aux cultures pérennes plutôt qu'aux cultures vivrières?
Vous savez, aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est plus seulement l'agriculture de subsistance, mais aujourd'hui, l'agriculture est devenue une force. Si nous pouvons regarder aujourd'hui les chocs économiques que nous subissons à partir de la guerre qui se passe en Ukraine, vous vous rendrez compte qu'à partir de cette agriculture pérenne, nous aurons de quoi exporter, notamment les cacao, parce que notre province de la Tchopo a une très très bonne qualité de cacao que nous pouvons exporter et qui peuvent ramener des devises dans notre pays. Si nous voyons le riz, aujourd'hui nous pensons que le riz sera une alternative pour faire face à la situation actuelle qui secoue le monde, dont nous-mêmes ici en RDC nous sommes victimes. C'est-à-dire nous sommes en train de penser que autour même de cette agriculture pérenne, l'agriculture vivrière aussi pourrait avoir sa place parce que nous allons mettre en place des techniques de production et de transformation qui permettraient aux agriculteurs d'associer les cultures.
Pour terminer, Emmanuel, la province de la Tchopo, où vous installez aujourd'hui, compte sept territoires, mais là, vos activités ne seront réalisées que dans quatre entités. Comment vous pouvez expliquer l'exclusion des trois autres territoires?
Bon, quand un programme de développement s'installe, il y a des critères d'études qui ont été effectués. Nous allons, dans un premier temps, travailler avec le territoires des Banalia, Bafouassene, Opala, Isangi et Ubundu, spécifiquement parce que dans ces territoires, nous avons une production à grande échelle pour les cultures concernées, les chaînes de valeur concernées. Et dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, on pourrait réfléchir comment étendre notre intervention dans la Tchopo.
Emmanuel, merci.
Je vous remercie.
Notre invité, Emmanuel Bouirabouiza Mouchagalou, s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal qui a été réalisé par Élisée Tikota et supervisé par Ben Kabamba sous la technique d'Alain Ngoïp. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.